Radio Okapi.
Votre journal Bibi Moukonkolé.
Okapi.
Au sommaire de l'actualité, plus de 38 personnes tuées en l'espace de 20 jours en ville et territoire de Vigne pour ce mois de mai et plus de 400 personnes massacrées depuis octobre 2014, annonce faite dans un communiqué de presse par l'Association africaine de défense des droits de l'homme. 7 tonnes de vivres arrivées hier samedi au camp lieutenant-général Bahouma à Kisangani. Le chef de la MONUSCO en visite dans ce lieu a annoncé que ces vivres sont destinés à 800 ex-combattants FDLR et leurs dépendants. La directrice générale du groupe de la Banque mondiale, ce dimanche soir à Kinshasa, au menu des entretiens avec les autorités congolaises, figure entre autres les perspectives à long terme du développement de la RDC. Bonjour. L'actualité de ce dimanche démarre par ces chiffres publiés hier samedi par l'Azado Beni. L'association africaine de défense des droits de l'homme dit avoir documenté plus de 38 personnes tuées en l'espace de 20 jours en ville et territoire de Beni, rien que pour ce mois de mai, et plus de 400 personnes massacrées depuis octobre 2014. Elle le dit dans un communiqué de presse publié hier samedi à Beni, au Nord Kivu. Et cette publication intervient quelques heures après un nouveau massacre de 7 personnes qui s'est produit dans la nuit de vendredi dans le quartier Matembo, à 1 km au sud de l'aéroport de Mavivi et 11 km de Béniville. Face à tous ces carnages, cette ONG de défense des droits de l'homme se dit préoccupée de la détérioration de la situation sécuritaire au jour le jour dans la ville et territoire de Béni. Et pourtant, dit Azado, cette contrée est surmilitarisée par les forces loyalistes. Ainsi, elle demande au gouvernement congolais et à la MONUSCO de prendre la situation à bras le corps pour protéger les population civile. Kizito Bin Angi, chargé de communication au sein de l'Azado.
La personne humaine est sacrée et l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur les plans national qu'international. C'est pourquoi l'Azado recommande au commandant suprême de l'armée et chef de l'État de prendre des mesures qui s'imposent pour la sécurisation de la frontière au Nord Kivu et la neutralisation définitive des groupes armés étrangers et nationaux qui tuent méchamment la paisible population. Au chef d'état-major des FARDC et au ministre de la Défense d'effectuer une mutation des troupes et commandements engagés dans les opérations Sokola 1 dans d'autres zones opérationnelles. À la MONUSCO d'intervenir militairement aux côtés des FARDC afin de concrétiser leur mission de protection des civils. À la population de soutenir les gouvernements à la recherche de la paix par toute action loyale.
Notez par ailleurs que face à cette insécurité grandissante, l'Azado s'interroge sur l'issue des élections prochaines et de la participation active de la population de Beni. Restons dans le Nord Kivu pour parler de ce cri d'alarme d'un notable du sud du territoire de Lubero. Donatien Mongane déclare que malgré les propos du porte-parole des opérations militaires dans le Grand Nord, propos lancés sur les antennes de Radio Capi dernièrement au sujet des opérations menées par les FARDC contre les FDLR dans ce territoire, pour lui, rien n'est fait par les forces loyalistes. Il confirme que dans les villages de Bouléoussa, Roussamambo, Luhanga, Kaléé, les populations continuent à subir les exactions des FDLR. Ces informations sont corroborées par d'autres sources locales. Donatien Mongane, président des ressortissants du territoire de Lubero, le dit au micro de Marc Marofimbo.
Nous venons d'écrire beaucoup d'exactions qui sont faites par ces mêmes FDLR. Et ces opérations, on ne les voit même pas. Nous aurions souhaité que quand on dise une chose, et que ça soit réellement opérationnel et exact. Tout le monde est déjà très mal à l'aise contre différentes exactions commises par les FDLR contre la population, et ainsi de suite. À Bouléoussa, M. Mboura Kitikira, il a été tabassé, il est hospitalisé, agonisant dans un poste de santé par le colonel Kizito de FDLR. Ses intérêts ne veut pas qu'on l'amène à l'hôpital, qu'il meure là-bas. Voilà pourquoi nous disons que les déclarations telles que le porte-parole Sokola 1 l'a dit, il n'y a pas les opérations qui ont commencé. Voilà ces actes d'exaction qui sont commises. On prend une femme de quelqu'un, on prend les enfants, on les enrôle, ainsi de suite. Il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de policiers, il n'y a rien du tout.
Pour terminer avec ce chapitre sécurité, sachez que le chef de la MONUSCO a visité hier samedi le camp lieutenant-général Bahouma à Kisangani, où sont installés depuis 5 mois des anciens combattants FDLR et leurs dépendants. Martin Kobler a voulu palper du doigt leurs conditions de vie dans ce camp de transit. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC encourage également ces ex-combattants FDLR et leurs dépendants à rentrer au Rwanda à travers le programme DD3R. Par la même occasion, le chef de la MONUSCO a parlé de 7 tonnes de vivres qui sont arrivées hier samedi à Kisangani, des vivres destinés à ces 800 ex-combattants FDLR et leurs dépendants. Martin Kobler est au micro de Dorcas Kanko.
À part des problèmes politiques nous avons et militaires, ce sont les actions humanitaires qui comptent. Les gens doivent avoir à manger, de l'eau, ils doivent avoir une hygiène, les services de base aussi médicales. Ça marche un peu mieux, mais ils n'ont pas de nourriture. Nous avons maintenant un avion qui est justement arrivé de Dungu avec 7 tonnes de riz pour une assistance humanitaire pour le camp, parce que c'est très important. Ces pauvres gens, ils ont seulement une fois par jour à manger. Ça ne marche pas avec tous les bébés, avec tous les enfants, avec tous les mamans. C'est pourquoi c'est important d'assister humanitairement. Ça ne fait aucune différence s'ils sont FDLR ou non FDLR, ou hommes et femmes, il faut aider.
La directrice générale du groupe de la Banque mondiale, ce dimanche soir à Kinshasa, au cours de cette visite de travail de 2 jours, Madame Sri Mulyani Idrawati va s'entretenir avec le président de la République, Joseph Kabila, le premier ministre Matata Ponyo et avec quelques membres du gouvernement congolais. Nadine Foulin-Simba donne plus de détails.
Les perspectives à long terme du développement de la RDC ainsi que l'évolution de l'initiative pour la région des Grands Lacs sont inscrits au menu des entretiens entre la directrice générale du groupe de la Banque mondiale et les autorités congolaises. Madame Sri Mulyani se rendra également à Goma où sont prévus des échanges avec les autorités provinciales. Sur place, elle va visiter l'aéroport du chef-lieu du Nord Kivu, financé par les projets d'amélioration de la sécurité de l'aéroport de Goma, puis elle se rendra à l'hôpital El Africa, soutenu par le projet d'urgence relatif à la violence sexuelle et basé sur les genres et la santé des femmes dans la région des Grands Lacs. Elle visitera également l'école primaire Eri, financée par le projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix. Tous ces projets sont la concrétisation de l'engagement de la Banque mondiale à soutenir les efforts de paix de la région des Grands Lacs. Pour rappel, l'initiative pour la région des Grands Lacs a pour objectif d'appuyer l'accord de paix signé en février 2013 par 11 pays. À cet effet, la Banque mondiale avait annoncé un programme de financement d'un montant d'$1 milliard destiné à aider le pays de la région à fournir des meilleurs services de santé et d'éducation et financer des projets hydroélectriques.
Parlons à présent de ce mouvement de mécontentement des travailleurs de Transco. Un terrain d'entente vient d'être trouvé ici dans la capitale. Compromis, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba, a rencontré ses travailleurs vendredi et plus de 80% de leurs revendications ont trouvé satisfaction. Parmi ces mesures figure la conversion des contrats à durée déterminée en durée indéterminée. Je vous signale que ce mouvement a perturbé le transport lundi dernier dans la capitale. Innocent Olinga pour les détails.
Se référant au mémorandum qui lui a été adressé, Justin Kalumba a annoncé comme mesure urgente la mise en place d'un conseil d'administration d'une commission mixte composée d'experts du ministère du Travail, des agents Transco, notamment des conducteurs, des percepteurs et contrôleurs pour le suivi de la performance. Il a ordonné la conversion des contrats à durée déterminée en durée indéterminée, l'octroi des congés annuels, l'octroi des primes de risque à chaque membre d'équipage, la facilité pour l'obtention des crédits bancaires, l'accès aux soins de santé et d'autres avantages comme les frais de rentrée scolaire. Cependant, le ministre a rappelé en ce qui concerne l'augmentation des salaires que cela dépend du rendement de chaque équipage. Il les a invités à redoubler d'efforts pour qu'il y ait moins de fraudeurs à bord de bus et atteindre les taux de remplissage requis. Justin Kalumba a recommandé un dialogue permanent entre la haute direction des Transco et les travailleurs, gage d'une paix sociale au sein de l'entreprise. Rappelons que les brefs mouvements de grève des travailleurs Transco pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions de travail avaient perturbé lundi dernier les transports en commun à Kinshasa.
En politique, pour terminer, mise en place des nouvelles provinces en RDC, quel peut être l'apport nécessaire des ressortissants de ces différentes futures provinces pour leur développement intégral? C'est dans cette perspective que l'organisation Unité et Solidarité pour la province du Nord-Ubangi, USPNU en sigle, a réuni quelques ressortissants de cette future province de l'Équateur hier samedi à Kinshasa. L'objectif étant de réfléchir sur le développement durable de cette future province à l'aube de son avènement. Plusieurs thèmes ont fait l'objet des discussions et de débats entre les participants. Compte rendu de cette rencontre avec Jacques-Yves Moulima.
Quelle gouvernance pour la province du Nord-Ubangi, de la nécessité d'une élite politique à la hauteur des défis du relèvement de cette province, autant des thèmes développés au cours de cette première conférence qui a rassemblé des acteurs multisectoriels de la future province du Nord-Ubangi. Pour les uns et les autres, il est plus que temps de réfléchir sur le devenir de cette province. Mais qu'est-ce qui justifie une telle assise à Kinshasa et qu'attend-on des futurs dirigeants de cette province? Réponse du président de l'ISPNU, Odan Joseph Bongambou.
Les acteurs qui sont à Kinshasa influencent la vie dans la province de Ubangi. On ne doit pas se voiler la face. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui seront à Gbadolité, qui deviendront gouverneurs, ministres. Donc ce n'est pas mauvais de tirer la sonne d'alarme. Vous allez là-bas, vous devenez gouverneur, ministre, comportez-vous en responsable et privilégiez l'intérêt de la population.
L'intérêt de la population, c'est ce qui prime. Mais cela ne peut être possible si l'on ne transcende pas les grands défis qui attendent ses ressortissants. Arthur Cédé Ngamozabousou, l'un des orateurs du jour.
C'est de nous mettre au-dessus du tribalisme. Parce que des responsables politiques comme moi, certains pensent encore à ces choses-là. C'est vraiment un grand danger qui pourra peut-être, si on ne fait pas garde, mettre en difficulté le démarrage de notre future province.
D'où la conjugaison des efforts de tous pour l'émergence de cette future province du Nord-Ubangi.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi,
Okapi. Le journal vous a été...